Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Bonjour à tous. Près de 4 mois après l'entrée en vigueur du Brexit, traité âprement négocié pendant plus de 4 ans et demi, où en est-on ? Clairement, il est difficile d'imaginer pire entrée en matière. La confiance est au plus bas entre Londres et Bruxelles, qui a mis en demeure les Britanniques pour non-respect de l'accord. La querelle pourrait se retrouver devant la justice européenne. Signe du fossé, le Parlement européen n'a même pas encore ratifié l'accord. L'Irlande du Nord, cette province du Royaume-Uni située au nord de l'Irlande, est encore et toujours au cœur du problème. Les protestants n'acceptent pas les nouveaux contrôles de marchandises imposés par le traité. Au début du mois, des émeutes ont secoué les villes de Belfast, Derry et bien d'autres. Une violence qui rappelle les troubles, la guerre civile qui a pris fin il y a 20 ans. La calmie n'a pas permis encore de rassurer les habitants. C'est le reportage d'Emeline Vin.
Une trentaine de kilomètres de murs divisent la ville de Belfast, barrage entre communautés unionistes et nationalistes. Les premières tiennent à leur attachement à la couronne britannique, les secondes souhaiteraient la réunification de l'Irlande. Tous les soirs, Lorraine et David, veste en polaire rouge, travaillent le long de ces murs, rassemblement ou pas. Employés par une association transcommunautaire, ils s'inquiètent des scènes vues la semaine de Pâques côté unioniste.
L'atmosphère est vraiment tendue. Il y a des gens qui viennent voir ce qui s'est passé. Par exemple, le bus incendié, la violence autour des portes, ça me rappelle vraiment les émeutes dans le temps. Et c'est le pire qu'on ait vu depuis des années.
Après 12 nuits de violence, près d'une centaine de blessés côté forces de l'ordre, les rassemblements se sont arrêtés pour marquer le deuil national après la mort du prince Philippe. Mais les raisons de la colère, elles, sont toujours bien présentes, à commencer par le Brexit qui a placé cette frontière douanière en mer d'Irlande entre la province et la Grande-Bretagne, explique Lorraine.
Les gens d'ici ont le sentiment d'être dépossédés de leur identité et c'est leur manière de se rappeler au bon souvenir du gouvernement. Ils ont le sentiment que l'Irlande du Nord est un fardeau qu'on se refile. Les jeunes et les adultes ont peur, ils ne se sentent pas entendus et voilà ce que ça donne.
Un contexte de colère qui a explosé avec la décision prise par la justice de ne pas poursuivre des élus républicains qui avaient, de manière flagrante, violé les restrictions sanitaires. Mais cela n'explique pas encore tout. Pour Emma de Souza, activiste et militante des droits civiques, l'âge des manifestants en dit long.
Je ne connais pas tellement d'ados de 12 ans qui s'intéressent de près aux accords de libre-échange entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Ça fait des mois que les politiciens unionistes font monter les tensions au sein de leur propre communauté. Et en faisant cela, ils couvrent politiquement des éléments bien plus néfastes qui existent toujours en Irlande du Nord.
Comprendre d'anciens paras qui profitent de l'ennui des jeunes confinés depuis l'hiver. Emma de Souza y voit aussi l'entrée en campagne des unionistes avant les élections locales de 2022 où ils pourraient perdre beaucoup de sièges. Il y a également une raison beaucoup plus prosaïque, un sentiment d'abandon. Abby Wallace est née en 1999, un an après l'accord de Belfast, et sa génération ne grandit pas dans l'Irlande du Nord promise.
Il n'y a plus de violence, mais ça ne veut pas dire que nous avons tiré parti du processus de paix autant que nous aurions dû, ni que toutes les communautés en bénéficient de manière égale. Les classes ouvrières qui vivent dans les quartiers unionistes ou républicains et qui ont subi de plein fouet les troubles sont toujours parmi les plus démunis. L'Irlande du Nord est la région avec le taux de maladie mentale le plus haut du Royaume-Uni. Un jeune sur 10 souffre de problèmes émotionnels. C'est devenu intergénérationnel à cause d'un manque chronique d'investissement. La déception, la ségrégation, le manque d'investissement, les problèmes de santé, tout ça constitue un terreau.
Un jeune Nord-Irlandais sur 5 était au chômage avant la pandémie, un taux encore plus élevé dans ces zones ségrégées. La jeune femme, étudiante à l'université Queen de Belfast, le martèle, l'accord du vendredi saint n'est pas caduc, mais l'Irlande du Nord doit sortir de ces schémas binaires qui appartiennent au passé.
90% des écoles sont toujours séparées, idem pour les logements sociaux. Un nombre incroyable de jeunes de mon âge ne connaissent pas, n'ont jamais rencontré quelqu'un de l'autre côté. Mais ce système ne fonctionne pas, ce n'est pas représentatif. Ma génération ne s'identifie ni à l'unionisme, ni au nationalisme. Un entre-deux est en train d'émerger.
connected to either side.
Comme elle, Emma de Souza ne croit pas à un retour des troubles et dénonce la couverture sensationnaliste des événements.
Certains de ces reportages parus à l'étranger ont grossi le trait, je pense. Nous ne sommes plus en 1972 ou en 1985. Aujourd'hui, ce sont de tout petits groupes qui, oui, créent des scènes violentes et dérangeantes et qui doivent être résolues, mais il y aura toujours des défis pour conserver la paix. C'est la manière dont on relève ces défis qui importe.
Le deuil national touche à sa fin. Les organisations loyalistes avaient promis de reprendre les rassemblements. D'un autre côté, les écoles ont rouvert, les restrictions sanitaires s'allègent. Alors, les protestataires pourraient se tourner vers des modes d'action moins violents.
Oh, England, you're such a fool. Did they teach you nothing at school? With politics, you've been risqué. For Brexit is just an entree. Yes, England, this is the start of picking allies à la carte. Soon the whole world will turn on you. It isn't nice, but it is true.
Et le négociateur en chef de ces accords du Brexit, le français Michel Barnier, qu'en pense-t-il ? Il était invité vendredi dernier au Touquet, dans le nord de la France, pour un colloque sur le Brexit. Michel Barnier a négocié pied à pied les 1200 pages du traité et il s'apprête à publier le 6 mai prochain un livre qui retrace toute cette négociation. Son titre, « La grande illusion ». Explication de texte avec l'auteur.
La grande illusion, c'est celle de croire qu'on peut se débrouiller tout seul dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il vaut mieux être ensemble avec le marché unique et c'est comme ça qu'on se fait respecter par le président américain ou le président chinois. Et moi, je n'ai pas envie que l'avenir de mes enfants se décide à Pékin ou à Washington. L'illusion aussi que nous avons eue, que ça ne se produirait pas, que ça n'arriverait pas le Brexit. Et c'est arrivé, donc il y a des choses improbables qui peuvent se produire et il faut faire aussi attention en France.
3 mois et demi après la signature de l'accord de Brexit, des émeutes en Irlande du Nord, une plainte de Bruxelles pour non-respect du protocole, on peut dire que c'est le pire des scénarios, c'est le scénario catastrophe.
Non, je ne dirais pas cela, mais je pense qu'il y a des raisons de faire attention, d'être vigilant. Et pour ma part, j'ai toujours considéré que la paix en Irlande était une paix fragile qu'il fallait faire attention. Et donc tout au long de cette négociation, j'ai cherché avec toute mon équipe simplement des solutions aux problèmes créés par le Brexit en Irlande. Parce que ce qui crée le problème en Irlande et qui crée des tensions, c'est simplement le Brexit et la manière de gérer le Brexit et de faire face aux conséquences qui sont qu'une partie de l'île qui est dans le Royaume-Uni quitte le marché unique, quitte l'union douanière et que nous devons contrôler les produits pour la sécurité des consommateurs irlandais et des consommateurs européens et la préservation du marché unique. Donc j'ai cherché des solutions en évitant l'idéologie, la rhétorique, des solutions opérationnelles, techniques. On les a trouvées avec Boris Johnson et maintenant il s'agit simplement que chacun respecte ses engagements. C'est pour ça qu'il y a cette plainte actuellement de la Commission européenne.
Vous trouvez que les Britanniques ne sont pas très fair-play sur ce coup-là ?
J'avais déjà tenté une fois avec une loi nationale unilatérale qui s'appelait le Internal Market Bill de remettre en cause les engagements pris dans le traité de retrait qui a été ratifié à l'automne 2019. Là, nous voyons de nouvelles mesures unilatérales, donc nous sommes inquiets, les Irlandais aussi. Je pense que chacun doit faire preuve de responsabilité.
Et est-ce que ça vient impacter la confiance entre les deux parties ? Est-ce que ça va être difficile et de plus en plus difficile de travailler entre Bruxelles et Londres ?
La confiance, elle repose en effet sur le respect de la parole donnée, des engagements pris. Donc nous sommes soucieux de cela. Et si on veut bâtir une bonne relation pour l'avenir, au-delà du Brexit qui est derrière nous maintenant, il faut qu'on ait confiance les uns dans les autres. C'est ça qui est en cause, en effet.
Est-ce que le Premier ministre britannique, d'une certaine manière, a menti aux Nord-Irlandais pour essayer de faire passer ce traité en leur disant « il n'y aura jamais de contrôle, il faudra me passer sur le corps » ?
Moi, je ne vais pas faire de polémique avec Boris Johnson. Le traité, il fait 1200 pages. Il est très précis. Il faut du temps pour le lire. Mais il a été négocié avec des gens professionnels, compétents, qualifiés, qui savaient ce qu'ils faisaient. On l'a négocié ligne par ligne, virgule par virgule, avec Boris Johnson, comme d'ailleurs le deuxième traité. Donc je souhaite simplement que le Royaume-Uni, qui est un très grand pays, respecte sa signature.
Comment
all you young sailormen, listen to me. I'll sing you a song of a fish in the sea and it's...
Économiquement, le Brexit est un choc, un divorce où forcément il n'y a que des perdants. Au début de l'année, les exportations du Royaume-Uni vers l'Europe ont chuté de 60%. Inversement, celles en provenance de l'Europe ont diminué de 30%. Paperasse, nouveau contrôle sanitaire, tout est plus complexe et plus lent. Et les Écossais qui ont voté massivement contre le Brexit sont les premiers à s'en plaindre, Marie Billon.
Il a décrit les difficultés commerciales dues au Brexit comme un pépin. Et ce faisant, Douglas Lumsdaine, candidat conservateur aux élections écossaises du mois prochain, a déchaîné une tempête. C'est surtout parce qu'il est élu local dans la ville d'Aberdeen que ses mots ont choqué. Son marché aux poissons est le plus connu d'Écosse, mais les exportations de poissons et de crustacés britanniques se sont effondrées de 83% en janvier. Les exportateurs ont beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles règles administratives post-Brexit, d'autant plus qu'elles ne sont pas les mêmes en fonction des destinations. Certains transporteurs refusent de prendre des chargements de Grande-Bretagne vers le continent, car toute cette paperasse les retarde trop à la frontière et les imports sont plus juteux que les exports. Si l'industrie de la pêche est la plus touchée, ces marchandises étant les plus périssables, l'industrie de la viande a été très impactée aussi. 31% en moins en janvier-février, selon le Bureau national des statistiques britanniques, un manque à gagner de plus de 810 millions d'euros. Même si les exports d'aliments et d'animaux vivants ne représentent que 7% des exports totaux du Royaume-Uni, c'est un gros coup pour l'économie nationale et ça participe à la baisse faramineuse des exports de tout bien confondu, sauf métal précieux, moins 40,7% en janvier. Dans l'autre sens, les importations de denrées alimentaires et d'animaux vivants ont baissé de 11% les deux premiers mois de l'année. Cela représente une perte de plus de 775 millions d'euros, tout bien confondu. Les importations ont chuté de 28,8% en janvier. Les importateurs et exportateurs se familiarisent de plus en plus avec les contraintes administratives qui n'avaient été confirmées que quelques jours avant le Brexit, mais les petites entreprises sont celles qui rencontrent le plus de difficultés. Les formulaires sont si compliqués que les autorités fiscales britanniques conseillent d'embaucher un expert pour les remplir, ce qui représente un énorme coût pour les PME, surtout si elles exportent des petites quantités de plusieurs produits nécessitant des formulaires différents.
En France et dans la région des Hauts-de-France, c'est le secteur de la pêche qui est en souffrance. Sur le papier, les prises ne doivent baisser que de 25% jusque fin 2025, date à laquelle il faudra renégocier. Mais dans les faits, il est extrêmement difficile pour les bateaux français d'avoir la fameuse licence qui les autorise à aller dans les eaux britanniques. Bruno Margollet est président de la compagnie maritime Étaploise, un gros bateau de pêche qu'il possède avec ses trois fils. Il était venu lui aussi à la conférence du Touquet sur le Brexit dire son découragement.
En fait, l'euphorie du 24 décembre au soir est vite retombée les semaines venant et puis à aujourd'hui sur 120 bateaux qui ont accès aux eaux britanniques, il n'y a que 22 qui ont leur licence de pêche pour aller dans les 6-12 000. Donc il en reste un peu plus de 90. Et c'est très préjudiciable, bien entendu, parce que le détroit du Pas-de-Calais, pour les pêcheurs des Hauts-de-France, on va dire que c'est à peine 30 km de chez nous, c'est à 17 000 nautiques. Donc les eaux territoriales anglaises sont très très importantes pour les pêcheurs des Hauts-de-France.
Alors ils sont à quai ?
Non, ils sont pas à quai, ils essayent de tirer le maximum dans la zone, on va dire, européenne, enfin française actuellement, puisqu'on est dans le détroit du Pas-de-Calais, et il y a une surexploitation de la zone de surpêche. Et on s'en ressent énormément parce que la rentabilité n'est plus là. Donc il y a des bateaux qui sont à quai depuis plusieurs semaines.
Et vous-même, votre société, comment vous vous en tirez ?
Depuis 3 mois, c'est très très compliqué. On a peine à couvrir nos frais. L'en est à l'arrêt. Actuellement, mon bateau est à l'arrêt, faute de rentabilité.
Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi les Britanniques n'accordent-ils pas les licences ?
Disons que les exigences du Royaume-Uni concernant les accès aux zones, nous personnellement on les a découverts, il faut prouver que vous avez pêché dans les eaux britanniques entre les années 2012 et 2016. Les anciens bateaux, il n'y a pas de problème pour prouver ces antériorités, sauf que les nouveaux bateaux qui ont été remplacés ces 5 dernières années, on a du mal à prouver l'ancienne antériorité avec le nouveau bateau, et les bateaux de moins de 12 mètres ne sont pas équipés de la valise, on appelle ça la VMS, pour pouvoir communiquer leur position à l'instant T, ne sont pas équipés. C'est que des logbooks papier. Donc il faut prouver qu'ils ont été pêchés dans les eaux britanniques pour pouvoir prétendre à ce fameux sésame pour pouvoir aller dans les 6-12 000.
Ça augure mal de 2026 où il va falloir encore tout renégocier ?
On ne peut pas se projeter avec une visibilité de 5 ans pour amortir un bateau. Même les banques ne vous prêteront pas de l'argent. Parce que pour pouvoir investir, moi j'ai 3 fils qui naviguent. Ils ont respectivement 40, 36 et 28. Ils sont tous les 3, on va dire, dans le même bateau. Et aujourd'hui, bien sûr, le bateau qu'ils ont actuellement, que je suis copropriétaire avec eux, a 20 ans. Il faudrait voir vraiment pour le remplacer ou tout au moins continuer avec un deuxième bateau pour pouvoir apporter de la flexibilité dans l'entreprise. Et là, actuellement, ce n'est pas envisageable.
Et pour notre chronique en un mot, on explique un mot de la langue de nos voisins. Aujourd'hui, on ouvre notre dictionnaire lituanien au mot Melayena, qui veut dire fausse nouvelle ou fake news en anglais, un mot qui, à l'heure des tensions avec le voisin russe, prend tout son sens. Les explications de Marielle Vituroux.
Ce sont les médias qui ont créé ce nouveau mot, les Melayena, pour pointer un phénomène de plus en plus agressif. La Russie ne cherche plus seulement à organiser des exercices militaires aux frontières du pays ou à faire passer des avions dans l'espace aérien de la Lituanie, elle veut aussi influencer l'opinion publique. L'Union européenne et l'OTAN ont aussi créé leurs unités ou leurs centres d'excellence pour étudier le mécanisme des fausses nouvelles et trouver la riposte. Comme le rappelle le chercheur Viktor Denisenko, enseignant à la faculté de journalisme à Vilnius, la prise de conscience du phénomène est récente.
L'année 2014 a marqué une rupture. Des événements historiques se sont produits, comme l'annexion de la Crimée, les événements au Donbass, la guerre hybride où la Russie a montré ce qu'elle savait faire. L'Europe et l'Occident ont pris conscience du problème et du défi au vu de la désinformation propagée au plus haut niveau.
Comme réponse à ce phénomène, la Lituanie a interdit la diffusion de plusieurs chaînes de télévision russes. Elle interdit parfois aussi la venue de certaines personnes sur son territoire, comme le chanteur Philippe Kirkov, quand sur scène, ils se font les chantres du Kremlin. Et la diffusion de Melayena ou de fausses nouvelles a des conséquences très concrètes sur la gestion de la pandémie. Certains habitants de Lituanie ne veulent que le vaccin russe, explique Thomas Cheponis, le spécialiste des fausses informations pour l'armée.
Même si nous avons des vaccins et le personnel médical formé pour vacciner les gens, dans certaines régions du pays, les gens ne viennent pas se faire immuniser. Il s'agit d'une population qui vit depuis longtemps dans la sphère médiatique russe. Ils sont nés en Lituanie, ce sont des Lituaniens, mais ils s'informent en regardant les télévisions russes et en suivant les réseaux sociaux russes. Pour nous, nous avons la preuve vivante des conséquences de la désinformation.
Ce terme de Melayena, tout le monde l'utilise. Quand il a présenté le rapport des services de renseignement au journal de la chaîne de la télévision publique, le directeur a utilisé ce mot. Viktor Denisenko est chercheur, il vient de publier une étude sur ce phénomène et lui aussi se met à utiliser ce nouveau terme.
C'est un mot qui sonne très lituanien, il est construit autour du mot essentiel de mensonge. C'est un mot beaucoup plus percutant qu'un terme plus spécialisé, les médias se sont mis de plus en plus à l'utiliser. C'est tout à fait justifié. Ainsi, les gens font de plus en plus attention à ce phénomène.
La Lituanie ne compte plus les tentatives de déstabilisation. Il y a quelques années, le ministre de la Défense en a été la cible. Il aurait été homosexuel et aurait agressé un journaliste. Mais souvent, les fausses nouvelles sont moins élaborées, mais leur effet est tout aussi insidieux, comme le remarque Viktor Denisenko.
C'est toujours le même schéma qui revient. La Lituanie serait un état désastreux à qui rien ne réussit. Et de là, tous les problèmes que le pays peut connaître sont exagérés dans le contexte de la pandémie. Il suffit que le nombre de cas augmente pour que ce soit utilisé pour démontrer par A plus B que rien ne fonctionne dans le pays.
La Lituanie mise sur l'éducation média pour contrer ces Melayena, mais aussi sur une attention renforcée de la classe politique envers les régions frontalières de la Russie les plus touchées par ce phénomène.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.